de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission sur le cinéma avec des interviews et aujourd'hui il y en aura deux, la semaine dernière il y en avait trois, mais là deux c'est déjà pas mal. Il y aura Miguel Gomez qui a remporté le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et puis nous écouterons Alexis Langlois qui a fait un film aussi présenté à Cannes mais pas dans la compétition, Les Reines du Drame. Bonjour Manu.
Bonjour.
Toi tu vas nous parler d'un film français musical.
Musical, oui, autour des fanfares, qui s'appelle donc En fanfare d'Emmanuel Courcol.
Le bien nommé. Et Guillaume nous parlera de La Bella Estate de Laura Luchetti. Quant à Sophia, elle nous parlera de Animal de Emma Benestan. Mais nous allons commencer par En fanfare. L'un est un chef d'orchestre de stature internationale, l'autre joue du trombone dans une fanfare. Ce sont deux frères.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Tenez! Large.
Je vous explique.
Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Sa carrière pourrait s'arrêter net le jour où il apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Avec une chance sur quatre, seule sa sœur peut le sauver si son sang est compatible. Mais deuxième choc, sa sœur n'est pas sa sœur car il a été adopté. Ainsi, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire qui joue du trombone dans une fanfare au nord de la France. Alors le mélodrame larmoyant sur la maladie est évité, hein, Thibaut étant sauvé par son frère. Le pire est écarté. Qu'est-ce qui nous attend à la place? Alors sans surprise, le classique feel good movie sur le rapprochement entre le frère bourgeois à qui tout a réussi et le prolo du Nord qui vit plus ou moins avec ses parents. En apparence, tout les sépare, mais l'amour de la musique va les rapprocher. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Coup du sort, il va diriger la fanfare de son frère suite au départ d'un membre de l'équipe.
Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Scénariste attitré de Philippe Lioret, hein, Emmanuel Courcol, est-ce qu'on peut nommer, ben, faute de mieux, un cinéaste honnête, pétri de générosité? Est-ce pour que, pour autant, ça en fait un bon réalisateur? Ben, le débat reste ouvert. En 2021, il sortait un triomphe avec Cadmerade sur une thématique humaine voisine, hein, où un acteur animait un atelier de théâtre en prison. Là, c'est un peu le même topo, puisqu'il s'agit d'un célèbre chef d'orchestre qui va donner un coup de pouce à une fanfare qui reprend, ben, alors, autant Aznavour que Sardou. Évidemment, ce genre de détail n'est pas à l'avantage du film, qui en un peu les clichés sociologiques. Le classique pour les bourgeois et la variété pour le peuple, ce qui, dans la réalité, n'est pas faux. Mais Courcol parvient à tirer son épingle du jeu en ne chargeant pas Jimmy, qui secrètement est non seulement très doué, mais a une passion pour le jazz. Il collectionne les vinyles dans un garage. Ce petit plus rend le film sympathique, hein, à défaut d'être vraiment réussi. Il a aussi une autre qualité très rare dans le cinéma français, de populaire. Hein. Il monte des personnages au travail lors des répétitions très crédibles. Alors ce n'est pas tard, hein, de Todd Field, mais cet aspect est inhabituel dans une fiction populaire destinée au plus grand nombre. Alors d'autre part, il respecte ses personnages, évitant de les caricaturer. Hélas, le film ne prend aucun risque, hein, ne s'aventurant jamais là où ça peut faire mal. La dimension sociale et politique présente en arrière-plan n'a pas beaucoup de consistance, hein, assujetti à un cahier des charges encombrant.
Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir lui et moi.
J'essaye de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis.
Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années.
Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardé tous les deux.
Quelle chance de vous avoir trouvé.
Ah, ça c'est sûr, il y a de la chance lui. Hein.
Pour la moelle, ça a marché. Par contre...
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec.
Putain, moi je plombe en plus.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone?
Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein.
Notre chef nous a plaqué lâchement.
Mais vous avez pas un remplaçant?
C'est toi qui dois diriger.
Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Hein.
Je vais t'aider.
Alors Emmanuel Corcoul hein, reste confortablement installé dans la tradition d'un cinéma français dit de qualité où rien ne déborde, où tout est organisé pour ne froisser personne. Le scénario suit un schéma prévisible avec des confrontations psychologiques convenues entre les deux frères sur fond de classe sociale. Alors sans dévoiler les ressorts dramatiques, notamment un twist final qui alourdit un peu le propos, le film effleure tout de même le cœur du sujet, un drame potentiel, le rêve inaccessible d'un joueur du dimanche. La mise en scène fonctionnelle est soumise aux impératifs télévisuels entre champs contre-champ et plan moyen. Alors si le film laisse plutôt une bonne impression au final, c'est grâce aux comédiens, de Benjamin Lavergne à Pierre Lottin, jusqu'au moindre second rôle, tous parfaits. Alors depuis ses débuts dans Les Tuches, où il était très bon d'ailleurs, Pierre Lottin ne cesse d'impressionner. Raphaël Connard n'a qu'à bien se tenir, car il a trouvé un concurrent de taille dans un registre similaire. Mais attention à l'overdose, car on a tendance à le voir aussi un peu partout. Alors voilà, finalement, En Fanfare, c'est un film touchant et assez juste, mais qui manque d'aspérité et d'originalité dans son traitement. Je dirais que c'est un pur film de scénariste, très attaché au dialogue et à ses personnages, laissant un peu, le cinéma un peu à la marge, le vrai absent du film.
Eh bien, En Fanfare est en salle depuis le 27 novembre. Un homme fuit la femme qui veut l'épouser et fait la tournée des pays de l'Asie. C'est Grand Tour de Miguel Gomez.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Le jury du Festival de Cannes a-t-il été audacieux en remettant le prix de la mise en scène à Manuel Gomez pour Un Grand Tour? C'est la question que je me suis immédiatement posée, tant je ne lui aurais jamais donné ce prix. Pour une raison simple, c'est que cette mise en scène est trop voyante, appuyée, sans être pour autant virtuose. Paradoxalement, le cinéaste voulait offrir un passage vers l'imagination au spectateur, mais il semble que la mise en scène est si cadenassée que le spectateur n'est finalement que spectateur au sens d'à distance du sujet. Alors rentrons un peu dans le détail. Le film en entier est un défi au temps. Au temps du cinéma. L'histoire commence en 1918 avec un homme, Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique, qui est fiancé à Molly. Alors qu'il devrait l'épouser, l'homme décide de quitter la Birmanie où il est pour rejoindre d'autres pays asiatiques par bateau, en train, en voiture. Alors, on traverse Singapour, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, mais pas avec des images du début du XXe siècle. Alors, il y en a certaines qui sont recomposées au studio et il n'y a aucun finalement souci de véracité puisque les images qu'a assemblées Gomez ont été prises aussi en 2020 pendant la pandémie, si bien que des masques traînent par endroits. Le XXe siècle côtoie le XXIe siècle sans que ça doive nous apparaître saugrenu, et ça ne l'est pas tant que ça, car c'est solidement agencé. L'homme qui a pris peur est poursuivi donc par sa promise sans relâche. Elle aussi entreprend ce grand tour qui est le passage censé être touristique dans divers donc, pays d'Asie, mais bien évidemment ce n'est pas pour prendre du bon temps. Ce serait la femme la plus têtue du monde, mais ça ne suffit pas, car elle semble arriver toujours en retard. C'est donc un « Suis-moi, je te fuis » que nous invite à suivre le réalisateur portugais. Même si la jeune fiancée ne cesse de pouffer de rire, c'est un vrai gimmick qui devient, au bout d'un moment, agaçant. L'entreprise semble perdue d'avance.
Mas eu perdi o coragem e fugi.
Abandonou-me no cais e embarcou para Singapur. Vou atrás dele.
Ismael, como é seu amor?
Já não o vejo há tanto tempo.
Le spectateur profite de ce voyage et visite des pays, mais pas à la manière des personnages. Nous en avons une vision contemporaine quand nos personnages, souvenez-vous, sont en 1918. Le dispositif restera le même tout du long. Les récits se chevauchent entre réel, fiction, cinéma muet, dialogue et chant, puisés dans les cultures des pays que nous traversons. Il y a aussi une voix off qui nous guide dans ce grand tour. Pour nous conter cette histoire d'amour compliquée, Gomez ne choisit pas le montage alterné, mais raconte d'abord le périple du fiancé, donc la fuite, et ensuite celui de la fiancée, la poursuite. Ensuite, en usant des mêmes stratagèmes, narrateur, des séquences de marionnettes répétitives, les images noires et blancs et les images couleurs parfois se chevauchent dans la même séquence. C'est là l'empreinte radicale de ce film qui mélange donc les époques, les tonalités, les humeurs, tout en prenant son temps. Il s'agit plus, selon moi, d'une expérience cinématographique, un vrai plaisir de spectateur. Il m'apparaît toujours difficile de le recommander sans condamner certains spectateurs au bâillement ou à l'ennui ferme. Quand je l'ai vu à Cannes, une grande partie de mon rang a déserté la salle. Donc c'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce que je l'ai constaté. Donc ce qui ne veut pas dire que le film n'a pas de qualité. Il en a, mais pour en revenir à son prix, celui de la mise en scène, il manque singulièrement de finesse à mon sens. Voilà. Mais nous écoutons Miguel Gomez après qu'il ait reçu son prix à Cannes.
Devemos continuar, sou eu que decido.
Si on travaille avec des choses très différentes, comme des images de la réalité et des images d'un autre monde, que c'est le monde du cinéma. Le monde du cinéma, c'est un studio, non? Et c'est un autre monde où il y a la lumière du soleil entre pas, il faut inventer le soleil. Donc voilà. Et donc, cette question de transition, de permettre qu'en même temps on voit la différence que ça, qu'on essaye pas de cacher, que, enfin, s'il y a des gens avec des portables, il faut pas cacher ces gens, il faut assumer qu'il y a des portables, qu'il y a un autre monde, mais essayer de faire la transition pour le monde du studio, qui c'est, ça, où il y a les personnages du film, et ça se passe en 1918. Et donc, essayer d'inventer une fluidité, ça, c'était vraiment notre travail. Mon travail comme réalisateur, le travail du monteur du film, ça c'était quelque chose de très important pour que le film marche.
C'était Miguel Gomez pour Le Grand Tour. C'est le film qui a remporté le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Et il est en salle depuis le 27 novembre. Nejma s'entraîne dur pour réaliser son rêve et remporter la prochaine course camargaise. Eh bien, nous filons en Camargue pour Animal de Emma Benestan.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Le taureau qui entre en piste pour un tonnerre. Le 812, tu le vois le 812 ? C'est qui te regarde tout le temps de travers. Allez, 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 allez.
Animal avec un E, réalisé par Emma Benestan, clôturait cette année la semaine de la critique à Cannes. Une belle vitrine pour un film audacieux qui s'aventure sur un terrain rarement exploré par le cinéma français. Déjà remarqué pour Fragile en 2021, un joli premier long tourné à 7, Benestan continue d'explorer les territoires du sud de la France qui lui sont chers, mais opère cette fois un léger travelling latéral vers l'est en longeant la côte méditerranéenne jusqu'en Camargue. Là, dans ces vastes étendues sauvages, peuplées de taureaux et de chevaux, elle situe un western au féminin, flirtant avec le fantastique et le cinéma de genre. Le film s'inscrit dans l'univers des manades, troupeaux emblématiques de la région, et surtout celui des courses camarguaises, ce folklore où des rasteurs affrontent des taureaux, non pas pour les blesser, mais pour leur subtiliser des ornements attachés à leurs cornes. Une pratique spectaculaire, bien que discutable, à laquelle Emma Benestan s'intéresse en s'appuyant sur un casting sauvage composé de locaux, ce qui ne manque pas de renforcer l'authenticité du film. Ceci donne la réplique à une actrice talentueuse qui, elle, n'en est pas à son premier rodéo puisqu'il s'agit d'Oulaya Amamra. Découverte dans Divine, César du meilleur espoir en 2017, habituée à des rôles plutôt urbains et modernes, dans Divine mais aussi dans Fragile en 2021, elle incarne ici Nejma, une jeune femme qui tente de s'imposer dans un milieu profondément masculin. On la suit alors qu'elle cherche sa place dans cet univers rural et rude, où rôde une bête mystérieuse, un taureau menaçant et meurtrier, presque surnaturel.
Ah, oh, putain, Nejma, c'est quoi ça? Il te rappelle pas comment tu t'es fait ça?
Je crois que j'étais attaquée par un taureau.
Stop! Bam!
Les bêtes, elles sont folles en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont.
Jordan, putain, rends!
Comment ça a pu arriver, ça? Les taureaux, ils attaquent pas quand ils sont chez eux.
C'est la saison qu'on va se perdre.
T'as deux petits qui sont morts et tu parles de perdre la saison?
J'ai peur pour toi.
J'ai envie d'être avec les taureaux, c'est comme ça.
Nejma rejoint une manade où elle se confronte à la dure réalité de ce quotidien, entre élevage et préparation aux courses. Mais bien qu'elle s'intègre petit à petit dans ce microcosme, une nuit de fête, après sa première course, se finit en blackout et devient le point de bascule du récit. Quelque chose de terrible s'est produit, mais le film reste longtemps dans le non-dit, jouant sur une tension écrasante. en ayant fait appel à Ruben Ippens, le chef opérateur de Grave et Titane, deux œuvres phares de Julia Ducournau. On se doutait bien que, voilà, en poussant la porte du cinéma de genre, western et fantastique, Emma Benestin en profiterait pour aller taper dans les sous-genres du body horror et du revenge movie. Avec cette figure du taureau symbolique, Animal aurait pu s'élever au rang des grands contes féministes fantastiques en explorant l'imaginaire folklorique fécond de ce territoire et en développant tout un bréviaire fantastique qui aurait pu faire école. Mythologie locale à l'appui, il faut dire que cette idée d'un taureau-garou vengeresque à l'image de la bête du Gévaudan a de quoi séduire. Malheureusement, le film pêche à mes yeux en raison de certains choix scénaristiques, et c'est tellement dommage quand la première partie du métrage est si prometteuse. Benestin opte pour un flashback explicatif qui brise la force évocatrice de son mystère initial et l'ambiguïté des interprétations qu'on aurait pu en faire. Ainsi, elle choisit, malheureusement, une voie très explicite.
Ah, tu fais exprès, là.
J'ai fait exprès de quoi?
Tu l'envoies là-bas au fond, faut qu'elle finisse là, le rasé.
Ouais, j'ai fait un taureau, ça bouge.
Y'a le taureau, tu fais le taureau, on est là pour s'entraîner.
Bah oui, j'ai besoin de m'entraîner sur le mouvement, là.
On s'entraîne. Si je cours pas, c'est pas un entraînement, alors. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer au billet.
Je dis pas ça, mais...
Allez. Arrête de la défendre, j'ai donné les bons conseils, toi, tu comprends rien au taureau.
Si tu veux.
Allez.
T'as raison, continue.
Alors que le film s'inscrit dans la lignée des œuvres qui transposent les violences faites aux femmes dans le registre du fantastique, Emma Benestin choisit de révéler de manière frontale le viol de Nejma. En tant que réalisatrice féministe, elle aurait pu opter pour une autre route car elle sait assurément que ces images participent à de la réactivation de trauma chez les spectateurices. Et quand on fait le choix de représenter cette violence, il faut à minima une justification scénaristique forte. Ici, le propos en est affaibli, là où le non-dit, appuyé par le fantastique, aurait amplement suffi. C'est d'autant plus dommage que le film aurait pu approfondir un parallèle fascinant que Kaoutar Archi explore dans son essai de cette rentrée littéraire, hein, « Ainsi, l'animal et nous », la corrélation donc entre la domination exercée par les hommes sur les femmes et celle des humains sur les animaux. Ce parallèle transparaît parfaitement dans la scène que j'évoque par le flashback, hein, qui repose sur cette transposition, où les relations de pouvoir se tissent dans la violence et l'exploitation. Or, le film se contente d'effleurer ce questionnement.
Là où tu mets ta main. Trois fois que je te le dis.
Tu fais exprès, Kylian, là, c'est pas possible.
Bah oui. Non, mais là, c'est n'importe quoi.
Je suis obligé de bouger, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'entendre comme ça. N'importe qui peut rasoter, alors. Je te donne des conseils pour que tu ailles loin.
Non, mais tu le fais devant.
Tu sais pas faire, voilà. C'est ce que je te dis, t'écoutes pas.
Avec un tel sujet, une immersion dans ce folklore puissant, une bande originale frissonnante signée Yann Wagner, une photographie d'une beauté à couper le souffle et l'impressionnante Ouleya Amamra, le film avait tout pour devenir une grande œuvre. À mon sens, il est resté prisonnier de malheureux choix narratifs. Animal raconte tout de même la possibilité de la résilience, et même s'il rate l'occasion de transcender son sujet, il mérite sans doute quand même d'être vu en étant prévenu.
Animal de Emma Benestin est en salle depuis le 27 novembre. L'histoire contrariée de Mimi Madamour et Billy Coller. Nous parlons des reines du drame. C'est la deuxième interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invités et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Le cinéma queer a de plus en plus de place dans les grands festivals, ce qui lui permet aussi d'atteindre les salles de cinéma. C'est le cas avec Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, qui raconte comment deux artistes en devenir se rencontrent lors d'un show télévisé. Alors, d'un côté, il y a la douce Mimi Madamour et de l'autre, la punk Billy Coller. L'une va avoir beaucoup de succès mais ne pourra jamais révéler son amour au grand jour et l'autre ne se remettra jamais de cette histoire impossible. L'histoire est contée dans le futur par un youtubeur carrément peste interprété par Bilal Hassani, l'ancien candidat à l'Eurovision. Mais au fait, qu'est-ce qu'un film queer? Eh bien, c'est un film qui met en scène des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans suffisamment anormales pour être marginalisées. Et pour le film d'Alexis Langlois, c'est l'amour lesbien avec un personnage aux allures d'androgyne. Mais le queer ne s'arrête pas là pour le jeune réalisateur qui s'inspire des grands drames américains des années 60. Dans sa manière même de faire du cinéma, le réalisateur s'emploie à faire une œuvre qui se distingue des autres.
Ma petite Mimi, mais vraiment, il n'y a pas à dire, vous avez une voix.
Mais vous n'avez aucune personnalité.
Je sais pas bouger, je me partage, c'est sûr.
Tu vois, je peux te montrer 2-3 trucs.
Et pendant la finale, il n'y aura plus que toi et moi.
Bienvenue dans cette nouvelle saison de Starlet en herbe.
1, 2, 3.
Quoi, Billy?
C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain.
Billy,
tu me fais pas un drame, là.
Dans les rênes du drame, le drame est effectivement omniprésent, mais ce qui frappe, c'est avant tout donc la mise en scène. Alexis Langlois dope son film avec la pop culture de Britney Spears à Buffy contre les vampires, avec des images saturées, des couleurs irréelles, même les sacs poubelles sont violets. Je crois qu'il n'y en a pas vendu de tels dans le commerce. Il y a du kitsch à gogo. Et c'est là que réside peut-être la difficulté pour un spectateur peu habitué à voir les excès. On ne peut pas dire que le jeu soit exceptionnel non plus hein, dans le film et que le scénario ait un quelconque intérêt. La réussite est ailleurs, dans la mise en scène aux marges du cinéma commercial, dans la sursaturation de références, dans l'exploitation d'une filiation queer qui vise à montrer ce qu'on voit tout de même peu au cinéma. Alors une bonne partie des musiques sont signées par Rebecca Warrior, que vous connaissez peut-être puisqu'elle est dans les Sexy Sushi notamment. Les codes esthétiques et sensoriels pourraient désarçonner certains spectateurs qui devront sûrement céder de la bande-annonce pour savoir s'ils sont capables de tenir 1h40 devant le film. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Alexis Langlois, qui est un réalisateur qui avait commencé quand même avec un certain nombre de courts-métrages et qui, bah voilà, avec ce long-métrage, devait assumer son style. Ce n'est pas si évident dans le cinéma français actuel. Nous écoutons Alexis Langlois.
La musique ne séparera jamais, ok ? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble.
Comme plein de films ou plein de chansons, c'était un chagrin d'amour. Et ensuite, il y avait vraiment l'envie de raconter un mélodrame queer. C'est-à-dire que voilà, cette histoire m'a rappelé pas mal de films que j'adorais, comme par exemple Star is Born de Cukor. Ou certains films de Douglas Sirk, où voilà, des personnages viennent de milieux différents et le monde leur dit qu'ils peuvent pas s'aimer. Et je me suis dit, bah, en fait, toutes ces histoires que j'aimais, ces histoires romanesques et politiques, j'avais envie d'en faire une avec des personnages qui me ressemblaient, c'est-à-dire des personnages queer et qui justement luttent avec la norme pour essayer d'être elles-mêmes. Et voilà, et ça rate, ça... Voilà, en tout cas, elle lutte contre ça pour finalement réussir à s'aimer grâce à la communauté queer. Mais voilà, c'était ça l'idée, c'était vraiment envie de reprendre les codes des films que j'aimais particulièrement, comme les films hollywoodiens classiques, mais de les refaire de manière plus contemporaine avec ces personnages.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Stevie ?
C'est ma lettre, je l'ai écrite toutes les semaines et elle me répond toujours avec un petit mot et une photo.
Mais es-tu vraiment sûr d'être le plus grand fan de Minima d'amour ?
Oui ! Patouche, patouche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur ou reste sur la touche. Patouche, patouche,
je ne suis pas ta chose, si tu veux ma bouche, tu chéris mon cœur. Patouche, patouche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur.
Le film est construit comme un conte, il y a vraiment le livre qui s'ouvre, on pense à Podane de Demi, etc. Et comme tous les contes, ça parle de nous, et c'est des symboles, et je trouvais que c'était plus facile pour moi de... Finalement, c'est un pas de côté pour mieux nous parler à nous, et pour que l'histoire résonne peut-être plus, de manière plus vive... dans chacun de nous, quoi. Donc ça, c'était la première volonté. Et puis pourquoi c'est un conte qui se passe dans les années 2000 et pas jadis, comme le Podane ou je ne sais quoi ? Ben, en fait, c'était aussi parce qu'il y avait vraiment cette idée de convoquer toutes les choses qui m'ont, comment dire, presque qui m'ont constitué quand j'étais ado. C'était aussi l'envie de regarder toutes celles qu'on a souvent moquées, comme notamment des chanteuses pop, et voilà, notamment qui chantent leur chagrin adolescent des années 2000. Quand on écoute Britney Spears, quand même, My Loneliness is Killing Me, c'est pas joyeux, joyeux, où il y a Priscilla, toujours pas d'amour, et c'était vraiment de prendre au sérieux et de poser aussi un autre regard sur cette époque et de se dire, voilà, toutes celles qu'on moque, toutes celles aussi qui ont été un peu... écrabouillé par le rouleau compresseur de la norme ou j'en sais rien, c'était aussi voilà, de raconter cette histoire tragique, même si c'est avec un matériau que les gens disent non noble. Et pour moi, c'est ça aussi qui est queer et politique dans le film, quoi.
Tu es vraiment prête à tout pour être famous. Tu vas vivre ta vie de diva et moi je vais rester dans ce squat pourri.
Tu m'envies, tu m'oppresses, tu m'étouffes.
C'est mon cœur, il est à toi. Toujours.
C'était Alexis Langlois pour le film Les Reines du Drame, en salle depuis le 27 novembre. L'attraction d'une femme pour une autre, nous parlons de La Bella Estate, c'est évidemment un film italien.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
La Bella Estate, c'est quoi? Eh bien, en bon français, ça veut dire le bon été. Alors, on le sait, hein, des Reverdy de Rousseau au Pastoral, hein, en passant par Bananarama, l'été est la saison propice aux premiers amours, aux requins et aux chagrins. Ben ouais, le fameux Cruel Summer. Alors ici, hein, pas de requins, mais une ouverture vers le désir amoureux, la sensualité et la liberté. Quand Ginia, une jeune femme de 16 ans, hein, pose son regard sur Amélia, qui, au détour d'un rendez-vous entre amis le long d'une plage, ben c'est un cataclysme qui se déclenche en elle. Alors, grande, belle, libre, Amélia représente un idéal féminin et amoureux, inaccessible, mais qui va, pourtant, changer sa vie. Alors, cette révolution est amorcée par cette nymphe fantasque qui gagne sa vie en posant pour des peintres, hein, qui assument une sensualité du quotidien incontournable et fait donc fantasmer Ginia, jeune femme invisible aux yeux de tous, hein, qui va, elle aussi, avoir envie de croquer dans ce gâteau, de passer au premier plan et d'affirmer sa féminité en même temps que son indépendance.
Allez, allons sous le dévature et droite.
Pas évident toutefois pour Ginia, car elle est de l'autre côté de la barrière. Tandis qu'Amélia pose devant les projecteurs pour les artistes, Ginia, elle, est une jeune couturière, certes très talentueuse, mais complètement asservie. Petit à petit, elle délaisse son quotidien bien rangé pour basculer dans un nouveau monde, celui de ces artistes qui semblent loin des conventions sociales, et ainsi en découvrir plus sur elle-même, mais forcément sans le recul nécessaire pour éviter les erreurs. Alors on peut comprendre son attirance pour Amélia, car elle est interprétée par Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci, dans son premier rôle. Alors un rôle de fausse femme fatale, hein, conditionnée et contaminée par son entourage, qui rappelle forcément celui tenu par sa mère dans Malena de Giuseppe Tornatore. Alors cependant, l'érotisme ne passera pas vraiment par elle, hein, car ses scènes de pose seront judicieusement reléguées au hors-champ, puisque l'héroïne, c'est l'interprète de Ginia, hein, une jeune actrice visible au générique des films d'Alice Rohrwacher. Alors une très belle phrase, hein, nous montre là où réside le cœur de la Bella Estate. Quand Amélia demande à sa nouvelle copine pourquoi elle vient lui demander la permission de la peindre, elle lui dit « Je veux que quelqu'un me regarde pour me dire qui je suis vraiment ». L'affirmation de cette jeune femme va passer par sa digestion fictive de sa vie, sa représentation va lui permettre de découvrir qui elle est véritablement. L'art va servir de catharsis et de révélateur sur ce qu'elle vit, ressent, éprouve et désire, mais ne sera pas pour autant parole d'évangile, car cet art reste le regard d'un autre. Il y a des idées de mise en scène, hein, comme jouer sur un symbolisme visible mais pas forcément fin. Alors Ginia, hein, se couvre de feuilles, allongée sur le sol en communion avec la nature. Elle voit et recueille une chenille, son premier baiser avec Amélia est sur un arbre renversé, soit une représentation d'un passage vers une autre dimension non conventionnelle. Alors il y a aussi une volonté intéressante, hein, de couvrir certains moments forts en plan séquence, dont un dépucelage, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. Alors s'y trahit ici une maîtrise un peu dysfonctionnelle de la mise en scène, basée principalement sur une idée de beau plan et non pas de contenant narrativement riche. Par exemple, la découverte d'Amélia par Ginia, hein, aurait dû être montrée à travers les yeux de la protagoniste dans une simili-recréation de la sortie des eaux d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No. Alors au lieu de ça, et comme souvent tout au long du film, c'est un banal chant contre chant, alors que tout le monde a compris ce qu'il se passait en filigrane. Alors c'est fortement dommage, car le film se déroulant à travers les yeux de son héroïne timide, hein, qui va se révéler petit à petit, ben, le fait que la mise en scène parle pour elle coulait de source. L'autre souci est l'effondrement complet de la troisième partie, sans grande lutte, alors que tout devrait converger. L'origine paysanne de Ginia et son frère face aux exubérances, bah, de riches des artistes et du monde de la couture, et si ce personnage peut vraiment s'affirmer dans un monde qu'elle a compris être cruel et sans pitié pour les femmes. Alors, hein, nous avons déjà un début de réponse, puisque le film se passe en 1938 à Turin, soit une Italie pré-Seconde Guerre mondiale, hein, et tous les bouleversements que l'on connaît, mais il est dommage que ce troisième acte se transforme littéralement en anti-Titanic, où James Cameron avait parfaitement compris et mis en scène, ben, le moment où Rose utilise son corps pour un croquis, symbole de la lutte des classes, geste de réappropriation qui va signer sa liberté et son indépendance. Alors malgré cette impression de fané, hein, la belle Estate reste une saison fréquentable, ne serait-ce que pour son actrice principale, solaire et vraiment touchante.
La Bella Estate est en salle depuis le 27 novembre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Nous revenons la semaine prochaine, nous parlerons des enfants après eux, aussi d'Adio, et toi tu auras deux films.
J'aurai Un paese di resistenza, voilà, un documentaire italien, et puis normalement un film d'horreur qui s'appelle Hérétique.
À la semaine prochaine.